Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Barthas. Bienvenue sur le 107. Hop là. Et oui, il est 8h30. On est en direct au programme de cette matinale. Nous sommes avec Cynthiana. Bonjour.
Salut.
Tu es là au nom du Marazeil. Hier, un poids lourd qui transportait un chargement de 36 000 litres de fuel s'est planté sur la 106. Encore une fois, la dernière fois, c'était en 2018, il me semble. En tout cas, ça s'est passé au-dessus de la ferme du Marazeil. On en parle dans un instant de ce qui s'est passé. On va faire un point sur les faits, de votre état d'esprit, etc. En deuxième partie d'émission, un tout autre sujet, tout aussi important. On sera par téléphone avec Alexia Boucherie, qui est docteur en sociologie, et avec elle, on parlera du consentement sexuel à l'intérieur des couples, mais pas seulement. Il y aura de la musique comme d'hab, mais on commence bien sûr. Je suis un peu à l'arrache par l'édito. Le temps que je me retourne et que j'appuie sur le bouton, ça va le faire.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Merci à Véro pour ce tweet. Emmanuel Macron, le rapport dit donc sur Twitter, le rapport du GIEC est sans appel. À nouveau, le temps de l'indignation est derrière nous. Accord de Paris, neutralité carbone au niveau européen, loi climat, etc. La France restera aux côtés de ceux qui agissent. En novembre, à Glasgow, c'est loin un accord à la hauteur de l'urgence. Ce à quoi Attac a justement répondu. Le rapport du GIEC est sans appel. À nouveau, le temps de l'inaction perdure. Subventions aux industries polluante, objectif non tenu, loi climat au rabais, trahison de la CCC, etc. Mon bilan est catastrophique, il parle de Macron. En novembre, à Glasgow, l'hypocrisie continue. Et oui, 3 années de travail, 230 auteurs issus de 60 pays, 14 000 publications scientifiques passées en revue, qui ont donné lieu à 78 000 commentaires formulés par plusieurs milliers de relecteurs. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, vient de rendre public le bilan actualiser les connaissances sur l'influence des activités humaines sur les climats et les risques associés. Un travail titanesque qui dresse un tableau peu réjouissant. Et ouais, pour ceux qui en doutaient encore, la responsabilité des activités humaines sur le dérèglement climatique et plus précisément les émissions de gaz à effet de serre relâchées dans l'atmosphère depuis le début de la révolution industrielle en 1750 est sans équivoque pour les experts du GIEC. Des changements rapides et généralisés se sont produits dans l'atmosphère, les océans, la cryosphère, la biosphère, etc. C'est ce qu'il souligne, avançant des modifications de la circulation atmosphérique, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, l'acidification des océans, l'augmentation des précipitations ou encore les modifications de l'air de répartition des espèces animales marines et terrestres. Ça fait des années qu'ils en parlent, des années qu'ils alertent, rien n'est fait. Les précipitations moyennes à l'échelle mondiale ont également probablement progressé depuis 1950, révèlent les auteurs, ce qui explique le hausse du niveau de la mer. Ce phénomène paraît en outre connaître une accélération depuis le début des années 80. À chaque fois, l'implication des activités humaines fait peu de doute, à défaut d'être le seul. Elles sont souvent le principal facteur. Voilà, rapport très réjouissant du GIEC. Cynthiana. Ah oui, ça fait écho un peu à ce qui s'est passé hier. Hein. Un poids lourd s'est planté au-dessus du Marazeil sur la 106. Il contenait 36 000 litres de fuel. 15 000 se sont répondus. Voilà, première question est assez simple. Hein. Quel est votre état d'esprit?
Complètement énervé. Comme tu disais, c'est pas la première fois. C'est la troisième fois en 10 ans. Donc les deux dernières fois, c'était en 2009 et en 2018. En 2018, on était allé au tribunal. J'ai le jugement sous les yeux, là. Ce qui en a résulté, c'est rien. Le chauffeur a pris 300 euros d'amende. Et c'est tout. La rivière est condamnée. Mais d'après les analyses officielles, en tout cas, tout va bien. Après, je vous conseille pas d'aller patauger dans le Bramont. Les pêcheurs le savent, il n'y a plus rien dedans. J'ai essayé d'aller me baigner dedans il y a quoi? Il y a 10 jours, ça pue encore le gasoil il y a 3 ans. Et ce matin, j'étais au Marazeil et ça pue le gasoil jusque dans la ferme. La réaction qu'on a eue hier quand on est monté voir un peu la situation, de la part des pompiers, c'était de dire c'est pas grave, la source est à sec. Donc visiblement, il y a une méconnaissance quand même du fait que la source, elle passe en souterrain et elle se déverse effectivement dans le Bramont un peu plus loin. De toute manière, ce pauvre cours d'eau, je crois qu'on peut plus rien pour lui, mais ça se déverse aussi sur des terres agricoles. Accessoirement, là, c'est sur un sectionnal de la commune d'Ispagnac, donc le maire d'Ispagnac était là aussi. On a été reçus de manière assez tragique, on va dire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, vous n'avez rien à faire là. Voilà. Ça a été ces mots, c'était vous n'avez rien à faire là, vous n'avez pas à poser de questions, vous inquiétez pas, on va s'occuper de votre cas. Ça a été la réponse qui nous a été faite quand on a demandé si on pouvait continuer d'abreuver nos bêtes malgré ce qui s'est passé. Quoi. Mm-hmm. Je voudrais aussi préciser que la gendarmerie m'a empêché de prendre des photos. J'ai pas pu aller prendre des photos du site de l'accident. Ils étaient une trentaine à peu près. Il y avait pas une trentaine de gendarmes, mais une trentaine de personnes sur le camion, à côté du camion, tranquille, détendu. Par contre, moi, il y en a quand même un qui m'a dit que je risquais de mettre le feu au camion parce que les appareils photos des téléphones, ça fait des étincelles. On en est là. La presse a pu venir, elle, hein, comme ils m'ont dit. Bah oui, c'est la presse, ils font bien ce qu'ils veulent. Du coup. Je vais peut-être me faire journaliste.
Ouais, c'est un beau métier. Hein. Et nous, en tout cas, vous êtes là, ici, aujourd'hui, pour ça et pour dire ce que vous demandez. Alors justement, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public ?
Alors, c'est simple. On va essayer d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait il y a 3 ans. Puisqu'il y a 3 ans, il y avait eu une procédure pénale qui avait été engagée contre l'entreprise de transport. À l'époque, c'était Prouesse Paradis. Cette année, c'est Boudon. Du coup, la problématique, elle est toujours la même, c'est que les entreprises de transport, pas que de fuel, hein, d'ailleurs, il y a plus de 300 camions qui passent par jour, je crois, aux dernières nouvelles. Les dernières données actualisées, elles datent déjà de 2017 sur le site de la DIR, donc c'est pas très à jour tout ça. Il y a plus de 300 camions qui passent par jour. Et la raison économique qui avait été avancée, notamment au tribunal la dernière fois, c'était ça coûte trop cher de passer par Millau, qui serait la voie alternative qu'ils pourraient prendre. Alors j'ai regardé, hein, c'est 30 euros le péage pour les poids lourds, c'est vrai que c'est une fortune. Et c'est une heure de plus de trajet, ce qui, en venant de Fos-sur-Mer, coupait la journée d'un routier en deux. Donc ça diminuait la rentabilité. J'ai envie de dire, à un moment donné, est-ce que, tu parlais du rapport du GIEC tout à l'heure, est-ce qu'il faut encore se soucier tant que ça de la rentabilité économique et pas commencer à se soucier de... vraiment ce qui se passe, enfin la protection de l'environnement au sens où c'est pas juste pour les écrevisses à pattes blanches, hein, je suis désolée, moi non plus ça me fait pas vraiment pleurer qu'il y en ait plus dans le Bramont, en fait c'est les terres agricoles autour, c'est le fait qu'on n'est pas foutu de prendre soin de la terre sur laquelle on vit, tout ça pour économiser 30 balles et une heure de route. J'avoue qu'on a un peu du mal à comprendre. Et qu'est-ce qu'on demande ? Ben, on demande à la préfecture de mettre une vraie limitation de tonnage, de mettre pas juste des ralentisseurs et élargir la route comme ils font depuis des années, parce que les poids lourds roulent juste plus vite, en fait. Il y en a plus, on a pu le constater depuis qu'il y a eu les derniers travaux. Donc c'est une vraie limitation de tonnage et inciter les entreprises à passer par Millau. Après, il y a l'éternelle question de la desserte locale, ce qui est un faux problème, parce que pour aller à Mende, ils peuvent passer par Millau. Pour aller à Florac, ils n'ont pas besoin de passer au-dessus de cette portion, qui, je le rappelle, est quand même classée zone Natura 2000. On se demande à quoi ça sert.
Là, vous allez donc faire une procédure et vous la démarrez quand ? Aujourd'hui ?
Non, parce qu'on va d'abord essayer de recueillir le plus d'infos possible. J'avais déjà fait une demande d'information auprès de la DIR, notamment pour relever le taux d'accident et le montant des sommes investies en travaux sur les 10 dernières années. Demande à laquelle ils n'ont jamais répondu. Donc on va la renouveler et puis on va essayer aussi surtout d'avoir une mobilisation locale. Et voilà, là je peux pas t'en dire vraiment plus pour l'instant, je suis encore un peu à chaud. Donc disons qu'on a lancé plusieurs pistes possibles et que tous les gens qui sont intéressés, en tout cas pour nous rejoindre dans cette lutte, ils peuvent nous contacter sur l'adresse mail du Marazeil, qui, je le rappelle quand même au passage, est une association, une ferme Terre de Liens et une ferme Nature et Progrès. Du coup, l'adresse mail, c'est L, la lettre L, Marazeil, M-A-R-A-Z-E-I-L, @gmail.com.
Je mets le lien, évidemment, sur notre site dans un instant. On pourrait aussi imaginer une intensification des contrôles de gendarmerie plus haut, c'est-à-dire sur le tonnage, sur la vitesse. Donc, au lieu d'avoir des tests salivaires à outrance, imaginaient plus de contrôle par rapport aux poids lourds.
Sauf que les poids lourds, en l'occurrence, ils roulent trop vite, mais ils roulent quand même dans les limites autorisées. Mmh. C'est des conducteurs expérimentés, c'est pas, en général, ils ne sont pas dans l'illégalité. C'est juste que cette route est pleine de virages et qu'un camion citerne a beaucoup de ballons. En l'occurrence, ce qu'on disait en riant jaune hier soir, c'était si au moins ça pouvait être des chargements de bois ou de paille, ça nous dérangerait moins, quoi.
Ouais, il faut trouver de l'humour où il y en a. Hein. C'est vrai qu'en fait, les camions citernes comme ça, ça fait un peu effet bateau, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas remplis avant. Donc dans les virages, ça tangue et à un moment...
Bah, ils ont des capacités de 35 000 litres, ce qui est la capacité maximale des camions citernes en circulation en France, si je ne dis pas de bêtises. Ça pourrait être des citernes de 5 000 litres, beaucoup moins dangereux à conduire, si c'est que pour de la desserte locale.
En tout cas, tenez-nous au courant de ce qui va se passer là dans les jours à venir pour vous.
Ne vous inquiétez pas, vous allez entendre parler de nous.
Bon courage et ouais, vous serez toujours les bienvenus ici sur cette antenne pour en parler. Quant à nous, on se tient évidemment au jus de ce qui se passe. Dans un instant, on parle d'un tout autre sujet, mais quand même tout aussi important, le consentement sexuel. On écoute d'abord Mr. Coconut and his orchestra, il n'y a pas de raison. Plateau. Avec par téléphone, Alexia Bouchery, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes doctorante en sociologie sur le sujet du consentement sexuel. Alors pourquoi déjà en tant que sociologue, vous avez choisi de vous intéresser à ce sujet ?
Ben moi, ça fait quelques années que je travaille sur d'abord les violences sexuelles, puis en travaillant sur ce sujet, je suis arrivée au consentement, puisque c'est un sujet qui quand même entre en compte dans les violences sexuelles. Donc voilà, je me suis intéressée à ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un flou autour de la notion de consentement et qu'on ne savait pas forcément ce que c'était. Donc voilà.
C'est ça, on a l'impression, même en 2020, que c'est encore un sujet tabou. Est-ce que je me trompe ?
Tabou, je sais pas, mais a priori compliqué à encore véritablement appliquer, quoi, hein, parce qu'on se rend compte que au-delà des violences sexuelles, il peut y avoir des incertitudes sur le consentement, et c'est quand même encore quelque chose qui est compliqué dans les relations sexuelles, manifestement.
Oui, c'est oui, non, c'est non. Alors, en théorie, les questions de consentement semblent aussi simples que ça, mais pour vous, ça va au-delà de cette binarité, comme vous m'avez dit.
Là, justement, on va revenir sur comment se pratique le consentement en réalité et les actes des plus explicites aux plus implicites qui peuvent venir contraindre ou en tout cas orienter le consentement. Et c'est vrai que parfois, le oui ne veut pas forcément dire que la relation sexuelle est désirée. Et moi, c'est ça le cœur de mes recherches, c'est de comprendre un peu ce qui se passe entre un oui explicite et un non explicite. Explicite, explorer un peu la zone grise en fait qu'il y a entre ces deux pôles.
Comment on peut faire avancer les choses? Parce que je me dis que ça reste un peu dans l'intimité du couple, non?
Oui, mais après, c'est une question aussi d'éducation, hein, c'est une question d'apprentissage, c'est comment mettre en place peut-être des modèles alternatifs de consentement, notamment via les cours d'éducation à la sexualité, mais aussi après c'est une prise en compte beaucoup plus générale, de manière culturelle en fait, donc dans les médias, les représentations qu'on a à donner du consentement, c'est par là aussi qu'on peut espérer un changement.
Vous faites des conférences, donc, et notamment dans les écoles. Quels sont les retours que vous avez de la part des jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils connaissent? Et est-ce que ça leur parle?
Moi, du coup, dans mes enquêtes, j'interroge les 18-25 ans. Donc, déjà, parmi les personnes interrogées qui vont avoir 18 ans, par exemple, ça dépend. Il va y avoir des personnes pour qui c'est assez simple. Et d'autres, où on va avoir un peu plus de mal à définir le consentement véritablement. Ce qui ressort le plus, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité à parler du non-consentement, ou en tout cas de violence, plutôt que du consentement en tant que tel, quoi.
On parle toujours de rapport de pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui concerne plus les femmes ou les hommes, ou est-ce que c'est égal à peu près?
En tout cas, en termes de violence sexuelle, véritablement, les statistiques sont quand même assez parlantes, puisque oui, on sait bien qu'il y a des rapports de pouvoir de genre. En creusant un peu, on peut se rendre compte aussi que les hommes vont quand même être orientés par cette idée selon laquelle les hommes ont des besoins sexuels que les femmes en auraient moins. Et avec ce stéréotype qui est faux, on se rend compte que les hommes vont avoir tendance à moins se poser la question de leur propre désir, puisqu'ils ont été élevés et ils ont eux-mêmes intériorisé le fait qu'ils ont toujours envie de sexualité. Tandis que les femmes, elles vont plutôt grandir avec l'idée que c'est à elles de réguler justement ces pulsions sexuelles masculines. Donc il y a quand même une dichotomie entre l'éducation au consentement des femmes et des hommes.
Ouais, c'est intéressant. Vous parliez de pédagogie, est-ce que vous parlez aussi, je ne sais pas, d'associations ou d'organismes qui peuvent aider quand on parle de consentement sexuel?
Localement, il y a quand même le planning familial qui est présent, notamment en Lozère. Je pense que sur ces questions-là, c'est important. Enfin voilà, si on a des questionnements, etc., je pense que c'est important d'aller les voir. Après, il y a... Sur le consentement en tant que tel, ça peut être compliqué d'aller voir des professionnels parce que là encore, ça demande quand même une certaine déconstruction de tous ces stéréotypes. Mais oui, le planning familial, je pense que c'est déjà une très bonne source vers laquelle se tourner.
Peut-être une légère digression, je ne sais pas ce que vous inspirent les propos de Blanquer, ministre de l'Éducation, sur ce qu'on appelle la tenue républicaine pour les filles.
Oui, est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter ça?
Vous êtes pas obligé.
Oui, non, pour moi, c'est encore déjà tenue républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis pourquoi ça concernerait que les filles? Enfin, voilà, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de penser que les qu'on doit avoir un regard forcément sur comment les filles s'habillent, soit c'est trop couvert, soit c'est pas assez couvert. Enfin, au bout d'un moment, voilà, il va falloir commencer à juste arrêter de contrôler le corps des femmes, en fait.
On est encore loin de changer les mentalités, en tout cas. Ça vous désespère pas ?
Non, bah, disons que il faut essayer aussi de manière individuelle ou de manière locale, voilà, d'agir comme on peut à notre niveau et peut-être pas trop espérer de prise en compte réelle des institutions. Mais voilà, ça avance quand même. Il y a certaines personnes qui ont envie aussi de faire bouger les choses. Donc ça avance doucement, plus lentement que ce qu'on aimerait, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça bouge, quoi.
Vous avez publié, si je ne m'abuse, en mars 2019, votre mémoire de Master 2 sous le titre « Trouble dans le consentement ». Pourquoi avoir employé ce mot « trouble » ?
Alors, ça fait référence à une autrice états-unienne qui s'appelle Judith Butler, qui, elle, a théorisé, un de ses grands ouvrages s'appelle « Trouble dans le genre », et c'est vraiment une des représentantes des gender studies, donc des études sur le genre, et qui a vraiment théorisé des notions, notamment la notion d'hétéronormativité que j'utilise dans le livre. Et donc voilà, c'était un rappel pour ça. Et puis aussi parce que le consentement est a priori trouble, hein, c'est que ça reste flou. Donc voilà, c'était un double jeu de mots.
Comment vous avez dit hétéro ?
Hétéronormativité.
Normativité. Alors j'avoue que je ne connais pas ce mot, c'est quoi ?
C'est... alors, comment dire de manière la plus simple possible. En gros, c'est toute la construction sociale qu'il va y avoir autour de la dualité, mais aussi la complémentarité homme-femme. C'est-à-dire que il y a un modèle hétérosexuel qui a été construit de manière ancienne, hein, c'est-à-dire que un homme et une femme, un homme a un pénis, une femme a une vulve, et les deux s'emboîtent, si je peux dire. Ajouté à ça, on a mis en place des normes de genre, c'est-à-dire que un homme c'est masculin, ça doit se comporter de telle manière, une femme c'est féminin, ça doit se comporter de telle manière, et au masculin on va plutôt mettre des qualités actives, et au féminin on va plutôt adopter des qualités passives. Et en fait c'est vraiment cette complémentarité là qui a été formée de manière très culturelle qu'on peut nommer sous hétéronormativité. C'est les comportements attendus d'un homme et d'une femme sous un modèle hétérosexuel. Et voilà, et ce que les gender studies viennent déconstruire et viennent expliquer qu'en fait, il n'y a rien de naturel dans tout ça, c'est très construit, et que pour arriver à une réelle égalité, eh bien, il faut commencer par déconstruire tous ces stéréotypes qu'on a accordés au masculin et au féminin.
L'hétéronormativité, je suis très content d'avoir appris ce que c'était ce matin. Est-ce que vous allez adapter votre conférence aux lycéens et celle que vous allez faire tout public après ? Parce qu'on ne s'adresse pas à des jeunes comme à des tout publics, j'ai envie de dire.
Oui, ben, je pense que surtout ce qui va se modifier, c'est peut-être un aspect historique que je vais peut-être moins développer au lycée, mais peut-être plus sur la conférence le soir, et essayer au lycée d'orienter vers des propos pratiques aussi, quoi, parce que voilà, on s'adresse à des lycéens qui, a priori, sont déjà entrés dans la sexualité ou vont entrer dans la sexualité, et c'est essayer de faire réfléchir à comment pouvoir entrer en sexualité de manière éclairée, ou de manière un peu plus réflexive sur ces questions de consentement, etc. Et sur la conférence tout public, voilà, ça va être pareil, revenir quand même sur des questionnements autour du consentement, mais peut-être axer plus sur comment ça a été construit socialement, etc. Peut-être un côté un peu moins pratique, mais plus historique sur la conférence du soir.
Mais alors justement, comment ça s'est construit historiquement ? Dans les grandes lignes.
Dans les grandes lignes, oui.
Ouais, parce que là, sinon vous pouvez rester une heure et demie ou deux heures.
Dans les grandes lignes, ben, c'est que le consentement, en fait, c'est surtout, ça a été défini quand même légalement, c'est-à-dire que ça évolue avec les mœurs, ça évolue avec la manière dont on va considérer l'égalité des humains. Donc, dans une époque où le patriarcat était inscrit véritablement dans la loi, la notion de consentement était beaucoup plus contrainte que ce qu'on a aujourd'hui comme consentement. C'est-à-dire que le consentement, ça se négociait pas, il n'y avait pas de possibilité de dire non, quoi. C'était dans le mariage, par exemple, voilà, quelque chose de... Le mariage, cette idée de devoir conjugal, c'est-à-dire que quand on est marié, on se doit du sexe. Et donc ça, aujourd'hui, la notion de viol conjugal vient un peu temporiser cette idée de sexualité obligatoire dans le couple, mais on se rend compte que même si c'est plus légalement encadré, l'idée que la sexualité doit être présente dans un couple, on se retrouve quand même avec une idée persistante et des normes qui vont quand même orienter les comportements et orienter cette idée que même aujourd'hui en 2020, un couple dans lequel il n'y a pas de sexualité, c'est un couple qui va mal ou justement ça questionne l'amour ou le désir que les deux personnes peuvent avoir. Et voilà, en gros, le consentement, ça évolue quand même avec... la manière dont on va prendre en compte les libertés et l'égalité des individus dans une société.
Au-delà du consentement, on voit quand même certaines choses, et pour finir sur une note peut-être positive, des choses évoluer, notamment sur les agressions sexuelles, avec des mouvements comme MeToo, etc. Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous dites qu'on va dans le bon?
J'ai pas compris la fin de la question.
Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous pensez qu'on est sur le bon chemin quand même?
Ah, ben oui, j'imagine, oui. Après, ce qui est agréable à voir, c'est que de plus en plus de personnes vont se questionner et vont quand même remettre en cause justement les normes que les personnes vont de plus en plus considérer comme inégalitaires. Donc oui, il y a une prise de conscience un peu plus globale, j'ai l'impression, de ces questions-là. Donc oui, on peut espérer que ça va continuer à évoluer.
Sujet grave, important, mais passionnant, c'est sûr, le consentement sexuel. Merci Alexia.
Mais merci à vous.
Je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie. Je rappelle aussi que vous avez publié votre mémoire de master 2 en sociologie sous le titre Très trouble dans le consentement. C'est aux éditions François Bourin. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. On se quitte avec été 67, le quartier de la gare. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À lundi. Ciao.
Le quartier le plus immonde, c'est toujours celui de la gare où l'on n'ose pas sortir le soir. Il y a là des gens de passage qui ont comme arme leur bagage, qui dissimulent mal leur stress. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste. Je veux parler des putes et des travelots, des camins et des proxos, des arrière-salles dans les bars, et puis du flingue sous le comptoir. Il y a ceux qui courent au boulot, il y a les chiens et leurs clodos. Toi tu n'oses pas mettre le nez dehors, et moi j'en crève tellement j'adore. Il y a toujours de la lumière pour éclairer la misère. Il y a ceux qui meurent et ceux qui se marrent dans le quartier de la gare. Ça s'appelle Guimain ou Termini, gare du Nord ou du Midi. Ça s'appelle gare d'Austerlitz ou bien Waterloo Station. Et pourtant c'est partout pareil, sous la pluie et sous le soleil. Des hommes dorment sous des cartons, pendant que d'autres pensent à leur pognon. Il y a les poètes et les artistes, les jongleurs pour touristes. Ça sent le rêve et le désespoir, l'illusion et le film noir. Dans toutes les villes du monde, le quartier le plus immonde, c'est toujours celui de la gare, où l'on n'ose pas sortir le soir. Il y a toujours de la lumière pour éclairer la misère. Il y a ceux qui meurent et ceux qui se marrent dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare,
ceux qui meurent et ceux qui se marrent
dans le quartier de la gare.